Père Patrick de Laubier, le 13 mai 2001, vous étiez ordonné prêtre par Jean-Paul II.
Ça a été pour moi une grande surprise d'être appelé par le Seigneur. Le cardinal Journet m'avait dit, Patrick, si un jour on vous dit d'aller au séminaire, n'y allez pas. Alors j'avais suivi le conseil et je ne pensais pas du tout être prêtre. Et je m'étais consacré à Dieu à l'âge de 20 ans, en n'envisageant ni d'être prêtre, ni d'être religieux. Et puis, c'est à Moscou que la veille du 15 août, j'ai été appelé. Et M. de Genève, c'est-à-dire François de Sales, m'a donc trouvé un évêque, c'est-à-dire Jean-Paul II, que j'ai connu notamment grâce à mes amis russes, puisque nous avions fondé une société Vladimir Soloviov à Moscou et nous avons écrit au pape en disant que Soloviov avait voulu rencontrer Léon XIII, ne l'avait pas pu et nous souhaitions le rencontrer. Il nous a écrit une lettre, venez déjeuner, et pendant 6 ans, on l'a rencontré, on était 5 ou 6. J'amenais des jeunes universitaires russes, et le pape, qui n'était pas invité à Moscou, était ravi de trouver des Russes, et même un Ukrainien. Alors, quand ma lettre est arrivée, je voulais être ordonné à Rome, et non pas en Suisse, où j'enseignais, ni à Paris, où j'avais vécu. Le cardinal Ruini, qui ne me connaissait pas, a vu ma lettre. Alors, il a dit au pape, il y a un certain Patrick de Laubier qui voudrait être prêtre. Alors, le pape a dit, mais je le connais. Alors, vous voyez, là, on traverse de part en part le droit canon, là, et donc, très vite. Alors, j'ai quand même passé une licence de théologie à Fribourg, et je me suis retrouvé le 13 mai. En réalité, l'ordination avait été prévue le 5, mais le pape avait été invité à Damas, donc ça a été repoussé. Et moi, ça m'arrangeait bien que ce soit le 13 mai, Fatima. C'était à la fois le 20e anniversaire de tentative d'assassinat. Et puis, j'ai été faire un voyage au Portugal pour vénérer Notre-Dame de Fatima.
Le Portugal, mais auparavant, la Russie. Vous avez toujours été attiré par la Russie ?
Oui, et un jour, devant un auditoire d'étudiants russes, il y a une étudiante qui me dit « Mais pourquoi vous aimez tant la Russie ?» Alors, je lui dis « Écoutez, ben voilà, c'est très simple. À 14 ans, j'avais lu un livre sur la bataille de Tsushima et j'étais pour les Russes contre les Japonais. » Alors, ça a suscité un enthousiasme. Mais à vrai dire, c'est pour moi un peu énigmatique pourquoi j'ai été attiré. Depuis 64, c'est mon premier voyage, je suis allé en Russie. C'est un pays tragique et j'étais comme ému par ce pays. Et puis le caractère extrême justement de cette histoire, le communisme était encore très vivant jusqu'à 89. On oublie facilement les choses, mais il est certain que le communisme a eu une extraordinaire influence et ça prenait un caractère un peu religieux, une sorte de religion séculière qui était liée à la Russie. N'oubliez pas que Staline était un ancien séminaire.
Parmi les livres que vous avez écrits, un qui s'appelle André.
André Cheptitsky, qui est le métropolite André, qui est une grande figure ukrainienne, est un prophète. Il est mort en 1944 et il annonçait que l'unité se ferait par l'Ukraine.
Comment est-ce que vous avez découvert cette personnalité ?
J'ai un ami qui était son petit-neveu. Mais en réalité, vous savez, c'est des choses bien mystérieuses, comment les rencontres se font et les orientations se prennent. Je suis allé en Ukraine même tout seul en voiture. Je suis parti de Genève, par exemple, en 87. Je suis parti à Kiev. Je me suis arrêté un moment dans un couvent de Monial. Je ne revenais pas de pouvoir le visiter comme ça. Et puis, pendant 10 ans, j'ai invité des étudiants russes, une cinquantaine de Russes et puis une cinquantaine d'autres pays de l'Est. Je les faisais venir à Genève pour des sessions de plusieurs mois et je finissais par en connaître pas mal. Et quand le communisme est tombé, j'étais à Moscou d'ailleurs le 25 décembre 91. Ça a été assez varié. J'avais été au Bureau international du travail avant d'être à l'université de Genève. Et puis j'invitais mes anciens collègues soviétiques à parler à mes étudiants. Et un jour je leur ai dit, c'est toujours moi qui vous invite, feriez bien de m'inviter. Alors les syndicats soviétiques m'ont invité et et je donnais des cours. Alors, même à certaines occasions, j'arrivais en avion, donc je disais, moi je suis catholique, il faut qu'on m'amène à la messe. Alors j'avais un interprète, un chauffeur, alors il m'amenait le matin à la messe. Et puis, il m'est arrivé même d'être traduit en 11 langues différentes. C'est tous les guérilleros que les Russes invitaient pour apprendre le russe et puis pour servir d'espion en Amérique latine, notamment en Asie. Et puis alors, on finissait par sympathiser. Donc, j'avais fait une thèse sur la grève générale en France et en Russie. Et donc, le syndicaliste, je connaissais bien. Donc, j'étais invité à l'hôtel Spoutnik. Et un jour, je leur ai proposé, c'était en 91, d'organiser un colloque dans leur université sur le centenaire de Rerum Novarum. Alors, Rerum Novarum, je leur ai dit en chinois que ça ne leur aurait pas parlé davantage. Et puis, alors, ils m'ont dit, écoutez, notre idéologie commence à devenir un peu équivoque. Alors, parlez-nous de la vôtre. Alors, on a invité le cardinal Etchegaray, et puis on a eu une dernière manifestation des syndicats soviétiques avant la chute du communisme, ça a été d'organiser, donc de participer à un colloque sur Rerum Novarum. Au même moment, on avait proposé ça à l'université de Nantes, et le clergé n'y voyait aucun intérêt. Il y avait un contrat saisissant entre les soviétiques qui organisaient donc un colloque pour le centenaire et les Français clairs en tête qui estimaient que c'était une idéologie réactionnaire. Donc j'avais très peu de contact avec le monde des clercs, avec l'Église orthodoxe elle-même, bien que les étudiants que nous invitions étaient toujours des orthodoxes pratiquants. Pour l'unité, moi je ne voyais pas ça venir du côté de la Russie. Mais en revanche, l'Ukraine a été un pays martyr. L'Ukraine qui est devenue une nation il y a 17 ans et qui jusque-là n'avait jamais été un État a connu des épreuves effroyables depuis la famine, l'extermination à la fois de la part des Allemands, ensuite des bolcheviks, des soviétiques. L'Ukraine a été un pays martyr et il se trouve qu'il y a 5 millions de gréco-catholiques qui se réclament du Concile de Florence. Et le Concile de Florence, en 1429, a permis que pendant 15 ans, jusqu'à la chute de Constantinople, l'Union a été déclarée solennellement. On s'est mis d'accord sur tout. Les 700 délégués grecs étaient présents et à part Marc d'Éphèse, on avait signé, pendant 15 ans, l'Église a été à nouveau unie. Et quand Constantinople est tombé, le sultan Mahomet II, lui, il n'a plus voulu de cette unité et il s'est arrangé pour nommer des patriarches hostiles à Rome. Au moment où la Russie connaissait une période très, très difficile, chacun cherchait à quoi se rattacher et 8 évêques du patriarcat de Moscou se sont orientés vers Rome et c'est en se réclamant précisément du concile de Florence. Et sur cette base-là, donc une église s'est instauré, comme il y a eu des changements de frontières très fréquents, il y a eu une partie du temps, ces Ukrainiens gréco-catholiques étaient dans l'Empire austro-hongrois, puis dans l'Empire russe, puis dans la Pologne reconstituée d'entre les deux guerres, donc les frontières changeaient constamment. Mais ils étaient entre l'hostilité des orthodoxes avec Moscou et l'hostilité des Polonais romains qui méprisaient les Ukrainiens aussi. Donc ils avaient tout le monde contre eux et puis ils l'ont payé par le sang et des souffrances effroyables. Quand Jean-Paul II a décidé, j'ai eu la joie d'y aller en juin 2001, quand il est allé à Kiev et à Lviv, et ça a été vraiment un signe, à mon avis, dans le ciel. Il annonçait comment l'unité pourrait venir. Pour que l'Église touche le monde, il faut une interface. Un jour, je donnais un cours à des séminaristes chinois. Et puis il y en a un qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que l'Évangile a-t-il été annoncé dans l'Empire romain et pas dans l'Empire chinois ?» Alors sur le moment, je ne savais pas trop quoi répondre. Et puis en descendant l'escalier, l'idée m'est venue, je leur ai dit « Parce que dans l'Empire romain, il y avait 10% de juifs. Il faut une interface. pour que l'Église puisse se répandre. Cette interface, qui maintenant est en train de se faire en Chine, avec justement les 14 millions de catholiques, et là qui va rendre possible l'évangélisation. Avec les orthodoxes, l'interface, ce sont ces 5 millions de gréco-catholiques. C'est eux qui vont rendre possible, parce que passer du latin au byzantin russe, on n'y arrivera pas. Il faut qu'il y ait, non seulement spirituellement, par ses martyrs, par ses souffrances, par ses attentes. Et là, nous avons une interface qui permettra de montrer que l'Église n'est pas uniquement latine, elle a mille visages. Et le visage byzantin est aussi son visage. Pour le moment, on peut dire que c'est la grande crainte, évidemment, du patriarcat de Moscou, cette affaire de l'Ukraine. C'est une grande crainte, mais aussi une grande espérance. Le métropolite Stepinski a prophétisé que l'unité se ferait par l'Ukraine.